Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Real France. Au programme aujourd'hui, retour sur la victoire du Real contre Valence. Et on parlera aussi du prochain match. Encore une belle affiche contre la Real Sociedad de Martin Odegaard. À mes côtés aujourd'hui pour cette émission, Coralie. Salut Coralie.
Salut à tous.
Et Elias qui s'ajoute enfin aux rotations du podcast.
Salut. Salut à tous.
Elias, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, une chaîne complète qui parle du Real Madrid, mais pas uniquement. Un vrai travail de fond et on apprend un tas de choses et d'anecdotes. C'est quoi le sujet de la prochaine vidéo, Elias?
La prochaine vidéo, ce sera sur la reprise des championnats, les questions que pose un peu la reprise des championnats, la lutte pour le titre en Espagne, les historiques comme l'Espagnol et le Werder qui peuvent se faire reléguer, enfin toutes ces petites questions que la reprise du football soulève.
Ouais, ça sort quand?
Ça sort comme d'habitude le dimanche matin à 10h.
Ok, nickel. Ok, bon, revenons sur le match d'hier avec un Real encore aux deux visages. On a vu une première mi-temps poussive et même dominée par Valence. Puis du mieux au retour des vestiaires, surtout après l'ouverture du score qui a libéré le Real, je dirais, et qui a aussi assommé Valence en même temps. Avec un peu de recul et une fois l'euphorie de la victoire passée, c'est quoi votre ressenti sur ce match? Est-ce que c'est une belle satisfaction ou ça reste encore mitigé au regard de la première mi-temps? Bon, allez.
Non, moi je suis plutôt mitigée. C'est vrai qu'en première période, je trouve que l'équipe était très impuissante offensivement. Zidane a voulu réessayer le schéma de jeu qu'il avait mis face à Valence en Supercoupe d'Espagne. Et c'est vrai que pour moi, ça n'a pas marché. On voyait que Valverde ne savait pas trop quoi faire, notamment sur son placement et tout. Et c'est vrai que Valence faisait énormément de mal au Real. Avec ses contre-éclairs et ses ballons longs. Donc moi, je suis plutôt mitigée, même si il y a quand même du bon, parce que justement, le Real Madrid a réussi à répondre en seconde période. Mais après, ouais, je suis plutôt mitigée.
C'est ça. Et puis il y a aussi le fait que ça fait deux matchs que le Real Madrid passe trois buts à son adversaire, mais ça fait deux matchs que tu sais pas trop comment ils sont arrivés à cette somme de buts-là. Il n'y a pas vraiment une performance sur 90 minutes où on peut se dire, OK, là c'était constant, là on a vu des choses qu'on pourra répéter sur les prochains matchs, là on a vu vraiment quelque chose qui se dégage de cette équipe. Tu as l'impression que tu as gagné deux fois assez largement, mais que tu es encore en train de tâtonner. Et par exemple, tu sais pas ce que le Real Madrid pourra proposer au prochain match. Et pas seulement parce que Zidane aime changer son 11, non, non, vraiment parce que l'animation, elle pose question en fait, on ne sait pas exactement où Zidane veut revenir, en tout cas pour l'instant.
Mais en plus, tu as raison parce que même moi, je vais parler par exemple du côté droit. Je l'ai trouvé vraiment impuissant. Vous voyez Carvajal qui montait énormément. C'est lui d'ailleurs qui faisait l'animation sur ce côté-là. Et on voyait que Valverde ne savait pas vraiment où se placer. Et je trouve ça assez, enfin, vraiment improductif, quoi.
Ouais.
C'est ça, ouais, il y avait le même problème d'ailleurs au retour, enfin, en finale de coupe, de Super Coupe, pardon, contre l'Atlético. Exactement la même problématique avec Valverde où il va se coller à la ligne de touche à droite. C'est bien, ça dégage un espace pour Carvajal. Le but aussi, c'est de dégager un espace pour Modric qui puisse jouer mieux offensif et qui puisse avoir une plus grande zone dans laquelle s'exprimer. Mais c'est vrai qu'ensuite, tu perds complètement les qualités de Valverde parce qu'il peut pas se projeter en direction de la surface. Défensivement, il est un peu plus loin des actions. Ça fait que pour presser à la perte, ben, il n'est pas là, il n'est pas à sa place, et puis tu donnes tout un couloir, comme tu l'as dit, Coralie, à Carvajal pour l'animer. Et Carvajal, autant si tu lui mets un joueur devant lui dans l'animation du couloir, il sera suffisant, mais si tu lui donnes un espace entier animé, là c'est difficile parce que c'est pas un ailier, c'est pas non plus quelqu'un qui a une qualité dribble qui fait que pas de problème, je me charge de 50 mètres carrés facilement.
Comment vous l'expliquez la première mi-temps où c'était vraiment vraiment pauvre? Est-ce que je me trompe si je dis que c'est la DS, le coach de Valence, il a largement gagné sa bataille contre Zidane, Corley?
Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé que les contre-éclairs faisaient vachement mal à la défense du Real Madrid. C'est-à-dire qu'on voyait Casemiro et Ramos sortir comme des fous pour justement essayer de contrer les attaques de Valence. Puis ils faisaient vachement de passes longues et on voyait que vraiment la défense du Real n'était pas bien. Donc, Celades a gagné techniquement en première mi-temps, mais en seconde période, Valence s'est complètement écroulée.
Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on sait que Valence adore jouer comme ça. C'est un truc qu'ils font toujours contre les grosses. C'est une équipe qui arrive à poser à chaque fois des problèmes contre des équipes qui sont meilleures qu'elles. C'est parce qu'au moment de contre-attaquer, ils ont les joueurs pour le faire. Ils ont pas seulement les joueurs pour courir dans les grands espaces. Non, non, ils ont aussi les joueurs pour donner cette passe-là. Typiquement un Parejo, typiquement un Kondogbia qui remporte un duel et qui lance quelqu'un d'autre dans l'espace. Et on sait que Valence joue comme ça. Et pour Valence, limite, c'était le scénario rêvé. Un adversaire qui joue très très haut, qui envoie beaucoup de monde en haut, y compris les latéraux, et un adversaire qui laisse ses centraux et Casemiro en marquage individuel sans aucune aide d'un autre joueur contre les joueurs les plus avancés de Valence qui sont extrêmement à l'aise dans ce genre d'exercice-là. Et Celades, je pense que c'était tout bénef sur cette première mi-temps parce que le plan se déroulait entre guillemets comme il fallait. Ce que je trouve assez surprenant de la part de Zidane, c'est justement d'avoir proposé cette animation offensive-là, sachant que Valence est assez friand de ce genre de situation. Ils peuvent contre-attaquer, ils doivent pas avoir le ballon dans les pieds tout le temps, ils doivent pas créer tout le temps. C'est vraiment une façon qu'a Valence de jouer qui est pas nouvelle. Ça fait 3, 4 ans qu'ils peuvent jouer de cette façon-là contre les gros.
Donc, de toute évidence, Zidane, il s'est trompé dans son approche.
Ben, moi déjà, j'ai pas vraiment compris pourquoi il a collé Valverde, un milieu box-to-box, comme tout à l'heure tu l'as dit, Elias, sur le côté droit. Surtout quand tu as des Brahim Diaz qui ont fait quelques bons matchs sur ce côté-là. Moi, j'ai pas vraiment compris comment il a appréhendé cette rencontre. Et du coup, oui, pour moi, il s'est complètement planté, en première mi-temps.
Moi, je sais pas si c'est planté dans le sens où c'est quand même un coach qui aime faire tourner, qui aime tenter des trucs. Et là, on est vraiment au début de la saison avec pas mal de rotations à gérer. Alors, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné, ça c'est vrai. Mais je ne sais pas non plus quelle était l'envie de Zidane. Enfin, s'il savait ce qu'il voulait faire et ensuite que ça n'aurait pas fonctionné, j'aurais pu dire, OK, il s'est trompé. Là, tout ce que personnellement je peux constater, c'est que ça ne fonctionnait pas. Mais je ne sais pas quelle envie il y avait derrière. Je ne sais pas si c'était pour tenter des nouveaux trucs en vue du match contre la Real Sociedad. Je ne sais pas s'il avait prévu, il travaillait ça la semaine avec Isco dans le 11, mais Isco s'est blessé, du coup ça l'a pas fait. Je sais pas si il voulait donner vraiment du temps de jeu à Modric à cette position parce que c'est une position qui peut lui convenir à l'avenir. Là, les matchs vont s'enchaîner, c'est peut-être plus intéressant d'avoir Modric en tant que numéro 10 qu'en tant que numéro 8. Je sais pas trop quelle était son idée. Tout ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et ce qui est un peu frustrant, encore une fois, c'est que je l'ai dit par le passé, ça avait déjà pas fonctionné en Supercoupe et que Valence, on savait que ce genre de configuration, si c'était mal exécuté, ça lui plairait.
Mais même après, même tu parles du numéro 10 avec Isco, mais alors à ce moment-là, pourquoi il n'a pas utilisé Rames, qui est un numéro 10 de métier, qui justement peut être bon entre les lignes et tout, à la place de Modric, qui, ben, comme tu dis, on va enchaîner les matchs en plus, parce que là, ça va être tous les 3 jours. Et je me dis que faire enchaîner Modric comme ça, au bout d'un moment, il va être carbonisé, quoi.
C'est vrai qu'il aurait pu mettre James, mais dans un monde idéal, je dirais, parce que voilà, la relation James-Zidane, on sait comment elle est. Et je me demande honnêtement si James aura un rôle à jouer en cette fin de saison. Pour l'instant, il n'a pas une minute, il n'a pas eu de temps de jeu. Mais c'est vrai que dans un monde idéal, tu dis, OK, James, clairement, ça fait sens. Mais la gestion de Zidane, elle est tout sauf digne d'un monde idéal. Il a ses raisons, clairement. Hein. Mais on n'est pas dans un monde où James peut disputer allègrement des minutes avec le Real Madrid, j'ai
Vous
l'impression.
voyez pas un autre joueur capable de jouer dans ce rôle-là, de numéro 10 derrière les deux attaquants? Un Marco Asensio, je sais pas. Quali?
Asensio, ce serait le rêve, ouais. On l'a pas souvent vu. Et en plus, il a son super pied gauche qui lui permet de frapper, d'être proche de la surface et frapper. Ce serait clairement un truc à tenter. Après, en soi, c'est pas trop un problème pour moi que Modric joue à cette position, mais c'est vrai que dans cette animation-là, ça le faisait pas. Il faudrait. En tout cas, si tu veux aligner Modric à ce poste-là, il faudrait créer un autre truc au milieu de terrain, il faudrait disposer les pièces d'une autre manière et leur demander d'autres choses pour que ça puisse fonctionner. Parce qu'en soi, ça fait sens d'avoir Modric proche de la surface, d'avoir Modric sur cette position de 10, mais il faut quand même un peu adapter l'équipe et c'était pas trop le cas de Zidane
Ouais, moi
hier,
je
tu
suis
vois.
complètement d'accord avec toi. Asensio, j'aimerais bien le voir jouer numéro 10 parce que même on se souvient de ses déclarations où elle expliquait que le poste qu'il préférait, c'était le poste de numéro 10. Donc j'aimerais bien aussi le voir dans cette configuration-là. Après, je pense que Zidane va l'intégrer tout doucement au 11 de départ. Là, hier, on a vu qu'il a eu un peu des minutes. Je pense que contre la Real Sociedad, il ne sera pas forcément titulaire. Et je me dis peut-être qu'à la fin de la saison, il va l'être accompagné et Benzema.
Et Elias, est-ce que ce match, il démontre pas aussi l'importance de Isco dans ce schéma?
Je pense que c'est difficile d'être 4-2 losange sans Isco Real Madrid, dans le sens où toutes les pièces, elles peuvent être à leur position idéale quand tu as Isco dans un 4-4-2 losange. Tu vois, que ce soit Modric ou Valverde en intérieur droit, c'est leur place. Casemiro en milieu défensif, c'est sa place. Kroos, milieu gauche, intérieur gauche, c'est sa place. Et Isco, numéro 10, il se régale. C'est là où il a sorti ses meilleures performances avec le Real Madrid ces dernières années. Et c'est vrai que c'est un système qui lui convient hyper bien parce qu'il a cette mobilité, il a cette capacité à s'offrir entre les lignes. Et Isco, quand tu lui offres des lignes de passe, quand tu lui offres des solutions, il va être un peu moins solo, entre guillemets, il va moins toucher le ballon à répétition, à répétition, à répétition. Il a plus de facilité à s'en défaire. Et c'est un système qui a fonctionné, en fait. Mais encore cette saison, il y a des matchs où Isco joue numéro 10 et ça se passe assez bien. Et c'est vrai que c'est le système où tout fait sens, je dirais, quand Isco est numéro 10.
Et puis même, j'ajouterais que, enfin, il a une vraie complémentarité technique avec Karim Benzema. Je trouve que justement, c'est avec lui qu'il arrive le mieux à combiner dans les petits espaces et tout. Donc pour moi, aujourd'hui, Isco est vraiment la pièce maîtresse du système de Zidane. Enfin bon, il y en a d'autres, mais vraiment pour moi, c'est Isco, c'est grâce à Isco que le jeu se fluidifie.
C'est ça, si t'as pas Isco, tu peux tenter d'autres choses, tu peux jouer à d'autres choses, ça peut fonctionner plus ou moins bien, mais voilà, vraiment, si tu vas avoir cette proposition où le Real Madrid se pose en camp adverse, fait tourner le ballon, et il y a tous les bons joueurs qui ont des bons pieds au Real Madrid qui peuvent entrer en jeu, les Toni Kroos, les Modric, Isco, Benzema et Hazard, alors là, vraiment, je pense que ça maximise un peu les qualités de tout le monde, et si tu veux jouer un jeu plus direct avec les ailiers, tu peux tenter cette approche-là. Mais c'est vrai qu'il y a clairement des matchs, je trouve, où ce système avec Isco, il fonctionne et il est nécessaire. C'est pas forcément le cas contre tout le monde, mais il y a certains matchs, et typiquement quand tu veux jouer contre Valence avec l'idée d'avoir le ballon et d'attaquer avec beaucoup de monde en haut, ça te facilite pas mal la vie, je trouve.
Ça a coupé ou c'est moi?
Ouais, il y a un petit bug là.
Ouais, ça va mieux là,
Ouais, ça a
j'ai
coupé, je
l'impression.
crois.
Ouais, du coup, ton intervention, elle a un peu été sapée, Elias. Ouais, vas-y, s'il te plaît.
C'est vrai? Tu veux que je refasse le passage sur Risco? Ok, alors. C'est vrai que si tu veux jouer dans cette configuration-là, alors avoir Isco dans le 11, ça fait sens. C'est pas obligé parce que tu peux avoir d'autres approches. Tu peux avoir le Real Madrid des ailiers qu'on a pas mal vu en début de saison. Tu peux avoir le Real Madrid qui est un peu plus direct, qui cherche un peu plus à jouer les transitions. C'est une autre option. Mais si tu veux avoir l'animation d'hier, c'est-à-dire avoir le ballon, jouer en camp adverse, faire tourner l'adversaire, être patient, c'est vrai que c'est difficile de faire ça sans Isco parce qu'Isco, ce sera vraiment le connecteur, le joueur qui va faire que ce Real Madrid peut garder le ballon haut, faire circuler énormément la balle et ensuite ça te
On
facilite
a en revanche vu
énormément
des
le
choses
travail à la
intéressantes en
perte.
deuxième mi-temps. Vous retenez quoi sur le plan collectif, Coralie?
Moi, j'ai bien aimé la relation Hazard-Benzema. Je trouve que ben, là, depuis la reprise, je trouve que ça marche vraiment bien. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps de Modric et Kroos aussi. Je les ai trouvés plutôt, enfin, ils allaient vraiment vers l'avant et tout. Ils essayaient de créer des choses. Et oui, après, j'ai vraiment bien aimé la deuxième période du Real Madrid.
Ce que je retiens en deuxième mi-temps de mon côté, c'est le fait que le Real Madrid a peu souffert défensivement. Autant la première mi-temps, parfois, c'était un peu l'autoroute en direction des cages de Courtois. Valence, Coralie l'a dit, n'avait pas besoin de faire grand-grand-chose ou de faire énormément de choses compliquées pour s'approcher du but du gardien belge. Et en deuxième mi-temps, ce n'était pas le cas. Le Real Madrid était beaucoup plus à l'aise défensivement, également parce que le pressing fonctionnait mieux. La position de Valverde un peu plus centrée a permis de couper ses lignes de passe faciles en direction des joueurs de Valence qui étaient plus avancés, qui étaient aux prises avec les centraux du Real. Et c'est vrai qu'avec une petite adaptation comme ça, le Real Madrid a été beaucoup plus à l'aise dans la partie. Il a eu beaucoup plus de facilité ensuite à créer du danger parce que c'est toujours la même chose avec cette équipe-là. Si elle attaque, mais elle se prend deux contres en 5 minutes, eh ben, tu es beaucoup plus craintif à l'heure de jouer avec le ballon. Tu prends moins de risques, tu mesures beaucoup plus les choses que tu vas faire. Tu as toujours cette petite voix dans ta tête qui dit attention, si je fais une passe trop risquée, peut-être que je la perds et qu'on se fait complètement avoir. Et le Real Madrid, quand il arrive à jouer libérés. Alors là, c'est un peu le feu d'artifice. Tu as vraiment la qualité des cracks qui s'expriment. On le voit encore hier entre Benzema, entre Asensio, entre tous ces joueurs-là, entre Modric qui sont vraiment à l'aise en deuxième mi-temps. Et moi, tu retrouves une configuration avec un Real Madrid dont tu as l'impression.
Alors que c'était quand même le gros problème du Real Madrid. Dans les 10 dernières minutes, bien souvent, on avait toujours peur que le Real Madrid prenne des buts et tout. C'était vraiment des périodes assez mauvaises. Et là, vraiment, la deuxième mi-temps, comme tu dis, on les a vraiment sentis en confiance et jamais on s'est dit Valence va pouvoir revenir dans le match.
Est-ce que là, justement, la mauvaise fin de match du Real contre Eibar, ça n'a pas conditionné le management de Zidane sur ce match qui n'a fait que deux petits changements sur les cinq possibles?
Ben, franchement, moi, j'ai trouvé ça dommage. Je m'attendais vraiment à voir un Rames ou même un Marseille. Et finalement, y a juste Asensio et Vinicius. Alors après, on est vraiment content pour Asensio parce que c'est vrai qu'il a marqué après deux blessures. Et finalement, moi, je suis quand même assez déçue des choix tactiques de Zidane. Je m'attendais à un peu plus de changements, surtout qu'on affronte la Real Sociedad à la fin de la semaine.
C'est vrai que moi, je suis un peu dans le flou avec ces cinq changements parce qu'autant, ça permet de reposer les joueurs et ça, c'est une bonne chose. Mais pour un entraîneur, changer cinq joueurs dans son équipe, ce n'est pas anodin et tu as énormément de choses qui changent. Et je me demande à quel point les entraîneurs vont utiliser cette ressource-là parce qu'on est en train de voir, par exemple, en Bundesliga que le Bayern répète ses 11, que Dortmund a tendance à répéter ses 11. Zidane n'a pas changé grand-chose entre le match contre Eibar et le match contre Valence au niveau de ses hommes forts. Et je me demande réellement à quel point la ligne elle est fine entre donner du repos à tes joueurs et utiliser ces cinq changements-là et complètement déséquilibrer ton équipe, comme ça a été un peu le cas en deuxième mi-temps contre Eibar, en profitant de ces cinq changements-là. Et pour l'instant, je suis un peu dans l'expectative où je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à cette possibilité de faire rentrer tant de monde. Et j'attends un peu de voir, parce que c'est vrai qu'on aurait voulu voir d'autres profils sur le terrain, mais si c'est pour avoir une deuxième mi-temps digne de celle contre Eibar, ça vaut peut-être pas la peine. Du coup, j'attends un peu de voir. Peut-être l'échantillon des matchs, il est un peu faible pour se prononcer sur le fait de...
Après, les cinq changements, ça va quand même avantager les gros, parce que c'est vrai que tu vois le Real, même le Barça, ont quand même des bancs bien plus conséquents que Rétafé ou Séville. Donc, je pense vraiment que ça va quand même servir aux grosses équipes, ces cinq changements.
C'est vrai que ça va clairement les avantager. Ouais, vaut mieux pouvoir faire rentrer Rodrigo, Vinicius et Asensio qu'être Leganés et tu peux faire rentrer Brian Ruiz et Aitor Ubal, quoi. Mais je pense que ça dépend un peu de la fin des matchs. Typiquement, si tu as un match qui est assez ouvert, alors là, tu peux faire des changements. Tu peux faire rentrer tes ailiers, par exemple, parce qu'il y aura des espaces pour eux. Ils vont pouvoir être déséquilibrants. Mais c'est vrai que si tu as un match où tu sens que tu dois vraiment travailler l'adversaire au corps parce que rien n'est gagné, ce qui a été un peu le cas de la deuxième mi-temps contre Eibar, qui s'est un peu repris dans la deuxième mi-temps. Eibar a posé plus de problèmes au Real en deuxième qu'en première. Alors là, tout changer ton effectif pour faire des changements, même si tu as des super joueurs sur le banc. Je ne sais pas encore une fois, hein, je ne mets pas de jugement, c'est plus un doute pour l'instant. Je ne sais pas à quel point ça peut être profitable. C'est Quique Setién au Barça qui disait que les cinq changements, ce n'était pas tant une bénédiction pour lui parce que justement, le Barça va chercher à faire mal à ses adversaires et à insister vraiment avec une idée. Et le fait de faire rentrer cinq joueurs, ça ne te permet pas forcément de maîtriser, de continuer sur la dynamique positive que tu as instaurée. Du coup, ouais, ça peut profiter au gros, mais...
Okay, on va maintenant parler un peu plus des performances individuelles. Vous avez envie de retenir quelle performance, Wally?
Celle de Benzema. Enfin, d'ailleurs, il est record hier soir. Il devient le cinquième meilleur buteur de l'histoire du Real. Il fait encore un très bon match offensivement. C'est vrai qu'il a souvent été démonté par les gens parce qu'il marquait pas assez. Mais bon, il faut aussi dire que l'animation offensive à côté de lui n'est pas forcément assez bonne pour le mettre dans les meilleures dispositions. Donc moi, j'ai vraiment envie de retenir Benzema, Modric et Carvajal. Comme on le disait tout à l'heure, il a vraiment fait un match énorme. Pour moi, c'est vraiment les trois joueurs à retenir. Et Asensio, évidemment.
Bon côté, ouais, Benzema, c'est impossible de passer à côté de son match. Et je suis content aussi parce qu'il a eu ce début de saison qui était tonitruant. Et puis ensuite, il y a un petit passage à vide à la fin de l'hiver, enfin en hiver, décembre, janvier, où là, c'est un peu plus compliqué. On a toujours cette image du Benzema du début de saison, mais dans les faits, c'était plus vraiment ça. Je suis content de voir que la reprise, ça se passe bien pour lui. Et c'est vrai qu'il y aura eu... Après qu'il a marqué ce but incroyable hier, je me disais quand même, on aura eu tous les débats possibles sur Benzema, il aura eu toutes les critiques à gérer, mais qu'est-ce qu'on se serait amusé avec ce joueur et qu'est-ce qu'on en aura profité. Et Benzema, du coup, il faut en parler. Asensio pour son but. Et je dirais, ouais, non, Modric, tu fais une super deuxième
Ben
mi-temps
c'est vrai, parce que même à
et
un moment
malgré son
donné, j'ai
âge, il est
trouvé
toujours
que
là quand
dans
il
la
faut, j'ai
saison, il
l'impression.
accusait un peu le coup. Et là, finalement, on revoit le Modric qu'on aime, le Modric qui fait des différences. Et vraiment, ça fait plaisir parce que l'année dernière, il avait été mis au pilori parce que c'est vrai qu'il n'était pas bon, il n'y arrivait pas. Et avec Zidane, cette année, je le trouve bien mieux. Et je me dis que s'il continue à avoir des performances comme ça, pas sûr qu'Odegaard revienne l'année prochaine, quoi.
Et concernant Modric, bah justement, il y a cette question de l'enchaînement des matchs. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui a quand même un coffre physique qui est impressionnant. Vous vous souvenez peut-être de sa Coupe du Monde où en prolongation, c'est à chaque fois le meilleur joueur de son équipe. Alors c'est vrai qu'il a l'âge qui va commencer à peser. Mais voilà, je me demande sur une courte période comme ça, sur un mois, on va dire, est-ce que ça va tant l'handicaper que ça? Je sais que sur une saison, oui, il faut le ménager, tu ne peux pas le mettre à tous les matchs. Mais voilà, sur un format qui, au final, se rapproche un peu d'un format Coupe du Monde, d'un format Euro, je serais assez curieux de voir si l'enchaînement des matchs, il va le gérer comme si de rien n'était, ou alors s'il va falloir un peu le ménager, avec le problème du fait que si tu veux ménager Modric, eh ben, il faut trouver une façon de remplacer son apport dans le 11. Isco est pas là et ça va être un peu difficile. Tu vois, tu te retrouves avec Valverde intérieur droit. Ça voudra dire qu'il faudra mettre un autre ailier. Qui? Gareth Bale, Rodrigo. Enfin, à l'heure actuelle,
Après, pour
ça
moi, je
reste
pense
encore
qu'il va essayer de
assez
mettre
difficile de
Modric
faire
dans
sans
les gros
Modric.
matchs, tu vois, par exemple contre la Real Sociedad et tout. Et peut-être que contre Majorque, eh ben, il ne le mettra pas et il essaiera Brahim ou Bale ou Vasquez s'il est de retour. Enfin, je pense qu'il y aura quelque chose comme ça parce qu'il ne va pas le faire enchaîner sur tous les matchs. On a besoin d'un Modric à 100% pour essayer d'aller chercher la Liga. Et je me dis que ça peut être compliqué s'il enchaîne vraiment tous les matchs, tu vois.
Et Ferland Mendy, vous l'avez trouvé
Ça va,
comment?
ça fait sens, ouais, c'est vrai.
Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Alors, c'est vrai qu'il est encore très scolaire. Ses centres, il ne les réussit pas toujours. C'est vrai que des fois, tu te dis, il tue des pigeons. Mais franchement, défensivement, il est toujours bon. Et je pense qu'il va prendre confiance en lui. Et la saison prochaine, on verra peut-être enfin le Ferland Mendy de Lyon qui montait, qui ne se posait pas de questions.
Bien, Mendy. En plus, il y a cette passe décisive pour Asensio où c'est pas seulement un centre qui met, c'est le petit dribble qui va avant. C'est un dribble d'ailleurs qu'il a répété pas mal de fois cette saison. Tu dis non, non, impossible qu'il passe. Et puis au final, il arrive vers la ligne de fond. Hop là, il passe l'épaule et son adversaire peut plus rien faire. Et c'est typiquement le genre de geste qui lui donne la confiance parce que c'est pas comme si tu réussis ça à la 30e minute et l'action ne produirait ensuite. Là, c'est une passe décisive, c'est un geste qu'on revoit parce que ça fait partie du but d'Asensio, c'est un geste qui va être commenté évidemment positivement. Donc, c'est tout ce petit, c'est clairement ce genre de petites choses qui peuvent donner confiance à Mendy. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait que Mendy sera là pour la fin de saison, on sait qu'il sera à un bon niveau. C'est plus le Mendy du début de saison et je me fais pas de soucis si le Real Madrid doit aborder la fin de saison avec Mendy. D'accord, il donne pas les mêmes choses que Marcelo, mais ça reste un joueur qui a le niveau pour le Real Madrid et ça a clairement pas été le cas de tous les latéraux qui ont débarqué au Real Madrid ces dernières années. Et que ce soit Mendy, Marcelo, le Real Madrid n'a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là, surtout que il
Mais
peut
après, tu as
alterner et
très
que
bien
ça va
dit, le
permettre à
souci, c'est que
Marcelo
les gens jugent
de
Mendy
souffler un
sur
peu.
le prisme de Marcelo. Pardon. Sur le prisme de Marcelo. Et pour moi, c'est
Ouais,
impossible parce
c'est
qu'ils apportent pas les mêmes choses. Marcelo, techniquement, il a la technique d'un numéro 10. Mendy, il l'a pas forcément. Mais pour moi, il apporte d'autres choses et il est très, très intéressant cette saison. Pour moi, c'est vraiment la meilleure recrue du Real Madrid de l'été dernier. C'est celui qui a offert le plus de garanties.
Et c'est vrai que si on entend répliquer Marcelo, c'est tout simplement impossible parce que Marcelo, déjà, entre guillemets, hein, il devrait pas être latéral, il joue à autre chose qu'à être latéral. Il y a quoi d'autre comme latéraux qui joue comme Marcelo? Et c'est pas une question d'être offensif ou défensif. Il y a plein d'autres latéraux qui ont un apport offensif immense, mais il y a personne qui fait ce que fait Marcelo, dépassement de jambe, repique à l'intérieur, et je te place une roulette, et je me retrouve dans une position où je peux marquer, et je te sors une frappe du gauche qui nécessite une technique absolument hallucinante. L'équilibre qu'il trouve sur la frappe contre Eibar, la zone du pied qu'il utilise, je sais pas s'il y a beaucoup d'autres latéraux dans le monde qui sont capables de faire ça. Du coup, Mendy, il doit avoir un apport offensif parce qu'il est au Real Madrid, mais il doit avoir un apport offensif différent. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'il a quand même Hazard devant lui. C'est pas la même chose d'être Marcelo et d'avoir personne devant toi parce que Cristiano Ronaldo est au centre, qu'être un Marcelo et avoir un Hazard devant toi. Et Mendy, typiquement, les situations où Hazard rentre à l'intérieur, aspire du monde et permet ensuite de décaler Mendy sur l'extérieur, Mendy se retrouve avec du temps, et ben c'est clairement des situations que Mendy peut jouer. C'est pas forcément Mendy, on va pas forcément lui demander d'animer l'entier d'un couloir comme Marcelo l'a fait ces dernières années. On va lui demander d'être offensif, mais les conditions dans lesquelles il doit jouer, elles sont un peu différentes de celles dans lesquelles Marcelo s'exprimait. Et ça, c'est bien pour lui parce que il a pas besoin de faire du Marcelo. Pas parce qu'il est Marcelo, non, non, parce qu'il a pas besoin, parce que okay. Les conditions
sont
différentes.
Et un mot sur Eden Hazard, vous l'avez trouvé comment?
Vas-y, Elias.
La chose à propos de laquelle je suis content, c'est que quand il fait ses prises de balle, il a confiance en lui. Tu sens qu'il a confiance en lui parce qu'un joueur qui n'a pas confiance, il ne tente pas une prise de balle première minute, où il va mettre son corps en opposition, où il attire trois joueurs. Tu sens qu'il a confiance en ce qu'il peut faire. Est-ce que ça suit derrière? Pas toujours, ça va prendre évidemment un peu de temps pour lui. Mais tu sens qu'il est beaucoup mieux que lors des autres reprises, hein, de ce moment où il revenait de blessure. Et en plus, il fait partie des actions de but, que ce soit l'autre jour ou encore hier. Il a chaque fois un rôle à jouer dans les actions avec une passe décisive ou avec une avant-dernière passe. Il y a ce sprint aussi hier contre Mangala où il se fait juste flipper le ballon au dernier moment, mais tu te dis dans deux matchs cette action-là il file droit au but. Du coup c'est un meilleur Eden Hazard que ce qu'on a pu voir en première partie de saison, et sachant qu'Eden Hazard c'est un joueur qui a besoin d'un petit peu à chaque fois de temps pour se mettre dedans, eh ben, je préfère avoir un Eden Hazard, le Eden Hazard actuel que le Hazard du début de saison, même si il est pas à son niveau, mais c'est
moi c'est pareil, je me fais pas du tout de soucis pour lui. Je l'ai trouvé un peu en dedans en première période quand même, et je l'ai trouvé bien mieux en seconde quand les espaces se sont ouverts. Pour moi, Hazard, c'est un joueur qui a besoin d'espace pour pouvoir percuter. Il a une technique impressionnante. Et oui, comme tu dis, il est mieux. Le moment où il a été mieux de la saison, pour moi, c'est lors du match contre le PSG et les matchs un peu avant quand il se blesse. Et là, on a l'impression qu'il est mieux. Le confinement lui a fait du bien. Et je me dis qu'il va quand même être un acteur important de la fin de saison du côté du Real Madrid.
Et Coralie le disait, c'est une question d'espace aussi, parce que première mi-temps, il fait pas la mi-temps de sa vie, mais parce qu'il reçoit chaque fois le ballon à l'intérieur. Le Real Madrid est tellement à l'intérieur, de par son positionnement, qu'il a évidemment attiré tous les autres adversaires à l'intérieur. Et là, bonne chance pour t'exprimer. T'as beau être le meilleur joueur au pied, tu peux pas t'exprimer dans ce genre de conditions-là. Du coup, il suffit que l'animation fasse un petit peu plus de sens, qu'on le trouve dans des
conditions. C'est clair, moi je suis complètement d'accord.
Un petit peu meilleur, et là, ça va aller encore mieux.
Un mot aussi sur Marco Asensio, la belle histoire. Il rentre en jeu pour la première fois de la saison et il marque au bout de 30 secondes de jeu sur son premier ballon. Est-ce que ça modifie vos attentes le concernant sur la fin de saison, Elias?
Bon, je sais pas si ce but l'a modifié mes attentes, mais je dirais que c'est un bon joker parce que faire rentrer Asensio, mine de rien, c'est faire rentrer un pied gauche, c'est faire rentrer un joueur qui peut marquer, c'est faire encore rentrer un joueur capable d'être présent dans les derniers mètres. Et ce qui est bien, c'est un ancien joueur du Real Madrid qui disait ça, un consultant, Alvaro Benito, il dit quand tu sors d'une blessure comme ça, tu as toujours cette question, est-ce que je vais pouvoir revenir à mon niveau? Est-ce que je vais pouvoir retrouver les sensations d'avant? Et quand tu rentres et 30 secondes après tu marques, je pense que tu t'enlèves un poids des épaules, c'est comme si, bon, ok, là, je crois que j'ai fait le plus dur. Je me suis un peu réconcilié avec le football définitivement. Et avoir un Marco Asensio qui peut apporter que du bonus sur cette fin de saison, ça compte. Parce que tout ce qui se passe actuellement pour Asensio, c'est du bonus. Il ne devait pas être de la partie en cette fin de saison. Actuellement, il devait être chez lui en train de regarder l'Espagne à l'Euro sans lui. Au lieu de ça, il est de retour de blessure, il joue avec le Real Madrid, il va avoir du temps de jeu et il y a une course au titre. Et c'est clairement un peu... Tu sais pas trop ce que Marco Asensio peut t'apporter encore, parce que ça dépendra du temps de jeu que Zidane lui donne, et on n'est pas encore très très au courant de sa forme, mais tu sais qu'il est
comme
là.
Comme tu dis, 9 mois après, il marque sur le premier ballon qui touche, il donne une belle passe décisive à Benzema aussi sur le troisième but. Moi, je pense que Zidane va l'utiliser. Après, il faut pas le juger parce que, comme tu dis, Elias, il revient de blessure 9 mois après. Et si je me souviens bien, Ressé avait fait la même chose. C'est-à-dire qu'après son retour des ligaments, il avait marqué lors de son premier match. Et finalement, après, tout s'était écroulé. gérer. Donc pour moi, il faut pas non plus s'enflammer. On va voir ce que Zidane va faire, comment il va le gérer. Pour moi, ça va vraiment être intéressant à regarder et voir ouais ce qu'il va pouvoir apporter. Pour moi, il va pouvoir apporter parce que c'est quand même un joueur qui s'est rarement caché dans les grands rendez-vous et je me dis ça peut apporter une corde à l'arc de Zidane dans cette animation offensive qui est des fois désespérante quoi.
Ça, c'est une corde pour moi, comme tu dis, Corley, parce qu'il y a tellement de joueurs qui peuvent rentrer. Tu vois, il y a les Rodrigo, il y a les Vinicius, il y a les James. C'est même pas sûr que Modric sera titulaire à tous les matchs. Enfin, il y a Brahim Diaz en plus. Il y a tellement de choses que tu peux faire que c'est difficile d'élaborer des scénarios où tu dis, OK, là, Asensio, il pourra apporter telle et telle chose. Là, si on perd le match à 10 minutes, Asensio, il peut rentrer et faire des différences. Non, c'est vraiment un grand point d'interrogation sur tout ce que Zidane peut faire, mais il vaut mieux avoir un point d'interrogation qu'avoir des certitudes quant au fait qu'on pourra rien faire. Là, on sait pas ce qu'on peut faire, mais on peut faire beaucoup de choses. Et je préfère pouvoir faire beaucoup de choses et avoir des incertitudes.
Non, puis même, enfin, Zidane, on sent qu'il a énormément limitée. Confiance en Asensio. Ça a toujours été, il l'a toujours soutenu, même quand il était dans le dur. Et du coup, je me dis que oui, ça peut être la belle histoire et ce serait beau que ce soit lui, comme tu dis, le gars qu'on n'attendait pas du tout, qui donne le titre au Real Madrid.
Parlons un peu du prochain match, ce dimanche contre la Real Sociedad, et c'est encore à 22h. Des Basques accrochés le week-end dernier par Osasuna et battus hier 2-0 contre Alaves. Vous pensez que c'est le bon moment de les prendre, Elias?
Je ne sais pas si tu as posé une question, mais sur la fin, c'était moins bien. Peut-être faudrait répéter la question.
Ah. Attends, je vais faire un tour. Parlons un peu du prochain match, ce dimanche contre la Real Sociedad, et c'est encore à 22h. Des Basques qui se sont fait accrocher le week-end dernier par Osasuna et qui se sont fait battre 2-0 hier contre Alaves. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour les prendre?
Bah, la Real, c'est clairement l'équipe qui est le moins bien revenue après le confinement. L'équipe qui propose le plus grand décalage entre ce qu'elle faisait avant la pause et après. C'est une Real Sociedad qui est méconnaissable en plus. C'est même pas qu'ils sont en train de pas très bien jouer, c'est qu'ils jouent pas bien du tout. Le truc, c'est que c'est quand même une équipe qui est assez forte quand il faut être dans une posture réactive. C'est une équipe qui est hyper complète et c'est vrai que si c'est toi qui as le ballon, si c'est toi qui cherches à créer du jeu, ça va pas tant lui poser de problème que ça parce qu'en une de passe, elle peut s'approcher près de ton but. Alors voilà, sans avoir un excès de confiance, je pense quand même que c'est le bon moment de jouer la Real, mais c'est pas pour autant que tu peux faire un mauvais match, quoi, clairement pas.
C'est vrai que contre Alavés, hier, on a vu vraiment une faillite collective. Je les ai trouvés vraiment mauvais quand ils avaient le ballon. On savait qu'ils ne savaient pas du tout quoi faire. Et alors, contre Osasuna, ils avaient vraiment du mal face aux contres des joueurs d'Osasuna. Donc oui, pour moi aussi, c'est le bon moment pour les prendre. Après, à voir ce qu'ils donneront. Et voilà.
Il y a un truc que j'aimerais bien voir contre la Real, c'est un pressing du Real qui est fonctionnel parce que ça a été tellement catastrophique contre Osasuna et contre sortir du pressing côté Real Sociedad, vraiment des choses qui étaient maîtrisées et faciles entre guillemets au début de saison qui fonctionnent plus du tout actuellement. Je me demande si encore tu leur rajoutes une dose de pressing avec un Fede Valverde qui est injouable et qui va embêter tes centraux jusqu'à les désespérer. Je me demande ce que la Real Sociedad peut offrir comme alternative. Je me demande si vraiment juste avec cette mesure là tu peux pas gagner, on va dire, je sais pas si la moitié du match, mais faire déjà un pas important vers la victoire.
Et vous vous attendez à voir quel match du coup? Parce que la Real Sociedad, elle va proposer autre chose que ce que Valence a proposé hier. Coralie.
Moi, je m'attends à un match assez ouvert. Pour moi, il faudra vraiment bloquer Martin Odegaard parce qu'avec ses passes laser, on voit qu'il arrive à faire gagner beaucoup de mètres à son équipe et je me dis qu'il faudra réussir à bloquer ça et surtout gagner la bataille du milieu de terrain parce que même au match aller, si je me souviens bien, Mikel Merino avait fait énormément de mal au Real Madrid. Donc, je me dis qu'il faudra vraiment gagner ça. Et la Real Sociedad, comme dit Elias, va devoir répondre, va devoir gagner parce qu'ils sont dans la course à l'Europe et tout. Donc moi, je m'attends à un match assez, assez intéressant.
Je ne sais pas ce que le Real Madrid va proposer. On a toujours ce côté inconnu. On ne sait pas trop ce que Zidane va faire. Ça dépendra pas mal du 11 qui va aligner. Mais je souscris à ce que dit Coralie. Si tu commences à laisser jouer Mikel Merino, si tu commences à laisser jouer Subeldia, Odegaard, bonne chance ensuite pour défendre ta transition défensive. Et c'est pour ça que je parlais avant du pressing. Tu t'évites déjà pas mal de problèmes si tu arrives à presser ces joueurs-là. tant offensivement, ça va permettre de créer des occasions, et défensivement, ça va te permettre d'être à l'aise. Le Real, c'est une équipe qui a souffert face à son adversaire basse cette saison, que ce soit en coupe ou en Liga, je crois, où Ramos sort une sale passe et ça finit en assist pour Willian Rossé. Du coup, voilà, tu as quand même un petit précédent entre les deux équipes, et le Real Madrid, c'est à quoi s'en tenir. Ça, c'est le côté positif. Tu peux pas non plus... c'est pas comme si tu allais à ce match avec une inconnue totale, parce que tu sais comment la Real joue, et tu t'es pris quand même 4 buts à domicile face à elle en coupe.
D'accord. Et vous attendez du coup à quel 11? Est-ce que vous le voyez, vous voyez Zidane retenter son 4-4-2, Coralie?
Moi, je pense qu'il va mettre Valverde, mais plus en tant qu'intérieur droit, comme disait Elias, pour justement effectuer ce pressing. Je vois Marcelo titulaire, personnellement, pas forcément Ferland Mendy, pour pouvoir apporter quelque chose en plus offensivement. Et après, je m'attends à peut-être voir un ailier, pourquoi pas Rodrigo, pour justement, enfin, lui, il essaye justement de défendre, il est moins en attaque que Hazard et Benzema, donc je m'attends plus à une équipe comme celle face à Ibar.
Ouais, c'est un peu la même chose pour moi. Au vu du précédent du 4-4-2 contre Valence, ce serait une surprise, en tout cas, que Zidane retente la même chose, surtout qu'on est dans une période où t'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner. C'est pas forcément facile de travailler des systèmes, travailler des animations quand tu dois jouer tous les 3 jours, sachant que le premier jour, c'est toujours dédié à la récup, et que le dernier jour, généralement, c'est pas conseillé de travailler beaucoup. Du coup, ouais, je serais plus du côté d'un 4-3-3 avec un ailier. Et le meilleur Real Madrid cette saison, c'est un Real Madrid où t'as Rodrigo qui profite du travail qui est fait à gauche. Real Madrid fixe à gauche, renverse à droite, et Rodrigo, il peut attaquer l'espace libre. C'est comme ça qu'il a marqué pas mal de buts d'ailleurs. C'est comme ça que Valverde se fait énormément plaisir aussi. Du coup, ce serait intéressant de revoir cette approche du Real Madrid là. On est un peu quand même, il faut le dire, à la recherche du meilleur Real Madrid. On court après ce meilleur Real Madrid qui est le Real Madrid de novembre, et ce serait sympa qu'on puisse le retrouver.
En sachant que Courtois, Varane, Ramos, Benzema, Kroos et Casemiro sont les 6 joueurs qui ont joué les 2 matchs en entier. Vous voyez pas Zidane en ménager un ou deux? Oui, Coralie, vas-y.
Pardon, tu peux répéter ta question, je ne l'ai pas bien entendu.
Je disais que, en sachant que Courtois, Varane, Ramos, Benzema, Kroos et Casemiro sont les 6 joueurs qui ont joué les 2 premiers matchs en entier, est-ce que tu ne vois pas Zidane emménager un ou deux?
Non, franchement, non, sur ce match-là, pas du tout. Je le vois plus faire un turnover face à Mallorca, mais face à la Real Sociedad, ce match est vraiment trop important pour ça. En plus, il est à Anoeta, et on sait très bien que jouer au Pays Basque, c'est toujours très difficile. Donc, pour moi, il ne changera pas ces joueurs-là.
C'est vrai que ce serait une surprise aussi pour moi de le voir changer sur ce match-là, parce que la Real Madrid leur doit mettre un peu un coup de collier. Ensuite, ce sera un match beaucoup plus facile face à Mallorca, à domicile en plus. Et le Barça, pour sa part, là, il a un peu une série de matchs compliqués qui l'attend. Du coup, ce serait pas le moment de perdre des points dimanche, parce que ce serait une occasion ratée, entre guillemets. T'as toujours aussi, peut-être ça dépendra du match du Barça aussi, parce que c'est vrai que t'es un peu dans cette situation où t'es condamné à courir après le Barça qui a des points d'avance et qui joue avant. Mais ce serait une surprise qui change énormément de choses, je dirais.
Parfait, merci à tous les deux pour cette nouvelle émission. Bon match encore en espérant une victoire du Real et un faux pas du Barça à Séville. Comme d'habitude, prenez soin de vous, et puis on se retrouve pour un nouveau podcast. Ciao.
Ciao.
Salut.